En 2018, Robocop pourrait sembler kitsch, un bonhomme déguisé dans un robot qui déglingue de méchants. Sauf que dans Robocop, il y a du sentiment, il y a de la politique, il y a des rebondissements, il y a du grand public, il y a du futur apocalyptique. Alors Robocop, film cheap ou chef-d'œuvre ?
Je vois que nous avons une question.
Oui. Enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement ?
Fiston ?
Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur !
Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Lendemain de Culte, l'émission qui revient avec nostalgie sur les films des années 90. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous parle de Robocop, le film de Paul Verhoeven sorti en 1987. Avec mes amis de toujours, bonjour Joe.
Bonjour Seb.
Bonjour Dim.
Bonjour à tous.
Alors, on s'écoute tout de suite. avant de vous dire ce qu'on en a pensé. On s'écoute tout de suite une petite bande-annonce ou un petit extrait d'un reportage de France Inter. Merci, mamie Lina.
Ouverture samedi du Festival du film fantastique à Avoria. Et déjà un favori en puissance pour cette 16e édition, Robocop du néerlandais Paul Verhoeven. Ce film, qui sortira mercredi sur les écrans, a déjà obtenu un grand succès aux États-Unis. Il réhabilite en fait le héros de chair et d'acier, Philippe Vallée.
Robocop, c'est l'histoire d'un cyborg qui a une âme. En effet, après avoir été tué par des bandits, un policier est ressuscité sous forme de machine de chair et d'acier. Invulnérable, il peut ainsi servir la loi. Toutefois, les financiers et les technocrates qui l'ont conçu n'ont oublié qu'une chose, c'est qu'un flic transformé en robot conserve toute sa mémoire. Autour de ce thème, Paul Verhoeven, le réalisateur, a construit un film étonnant qui n'est pas un film fantastique comme les autres. C'est aussi une critique terrible des technocrates qui croient que la société pourrait être mieux gérée par les machines que par des hommes. C'est aussi une interrogation sur l'avenir des États-Unis. De ce point de vue, le metteur en scène se montre peu optimiste. C'est probablement pourquoi le public américain lui a réservé un accueil qui a dépassé toutes les prévisions. Paul Verhoeven est devenu, en un film, une vedette. Vivant maintenant à Hollywood, avec femme et enfants, il est l'un des réalisateurs les plus sollicités, alors qu'en Europe, ses films n'avaient pas de succès. Voilà une nouvelle leçon pour les producteurs européens qui demeurent toujours aussi timorés dans leurs choix et leurs investissements. Sans aucun doute, il y aura un robot Robocop numéro 2.
Et oui, il y a eu un Robocop.
Malheureusement.
Malheureusement, et un 3 aussi.
Ouais. Alors, je pense qu'il a tout dit. Je pense que, voilà.
Je pense qu'on peut arrêter l'émission.
Allez. Donc, pour nous contacter, Dimitri.
Alors, on est sur Facebook et sur Twitter.
Vous aurez remarqué que le mot à la mode en 88, c'était le mot technocrate.
C'est vrai.
C'est un mot qu'on n'utilise plus trop de nos jours.
C'est vrai que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ouais. Bon.
C'est une sorte de bureaucrate.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film que tu nous as proposé et gentiment, Joe? Tu veux commencer ou tu préfères que ça soit Dimitri?
Allez-y, commencez, okay. Moi je finis.
Alors, ce film, moi je l'avais vu quand j'étais petit et il m'avait assez choqué, notamment une scène quand il est encore flic, le personnage, juste avant de passer en mode Robocop, il se fait dégommer par un groupe de gangsters et il prend assez cher. Et c'est assez sanglant et plutôt bien foutu, enfin assez cru quoi. Et je sais que c'est une scène qui m'avait bien marqué quand j'étais, parce que j'avais dû le voir, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans quoi. Et j'avais trouvé ça pas mal.
Tout ton jugement se base sur une scène.
Et depuis, j'adore torturer les animaux.
Ah.
Non, c'est un bon film parce que ils osent montrer la violence. Puis même en dehors de ça, c'est quand même bien réalisé. Les acteurs sont potables. T'es à fond avec le personnage. Et puis c'est un film que j'aime bien. J'aime bien le revoir. Et je trouve qu'il a pas trop mal vieilli malgré quelques effets spéciaux un peu limites, mais dans l'ensemble je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà. Et toi Seb?
Moi j'ai trouvé que il y avait un petit côté nanardesque à ce film, je vais peut-être en blesser certains quand je fais l'analogie avec Remo, la petite comparaison. Bon, c'est pas aussi gros que Remo, mais il y a un côté nanardesque que je trouve rigolo. Je trouve qu'il y a sûrement d'autres films qui traitent de ces messages. Peut-être que moi, je n'ai pas une nostalgie, la fibre nostalgique de ce film. Je, Je l'ai pas vu petit, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je crois pas que je l'ai vu. Peut-être c'est justement parce que c'est trop violent, j'en sais rien.
Peut-être.
Mais ouais, voilà quoi. Moi aujourd'hui, bon. Et toi, Joe ?
Eh ben, moi, j'avais été particulièrement marqué par ce film, comme l'a dit Dimitri, parce que c'est particulièrement cru et décomplexé, on va dire. La violence arrive comme ça. Enfin, ça fait partie du film, de l'ADN du film, et je pense aussi de l'ADN du réalisateur. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu plus profond que simplement un robot qu'on arme et qu'on laisse dans la ville. Il y a une touche un peu dramatique. Il y a un peu l'effet... Frankenstein sur un robot, c'est plus qu'un simple robot.
C'est vrai, c'est vrai.
Et on s'en rend compte au fur et à mesure du film, et je trouve voilà, que c'est bien fait. Et en plus, la BO est absolument dantesque.
Mmh. Voilà, très bonne BO. Ouais.
Bon, moi, je la trouve complètement oubliable. Mais ok.
Bah, c'est la musique de Motus.
Ah oui, oui. Motus.
Oui, ok. Ça, je me souviens, ouais.
Bah, très bien. Donc, bon. Ce film se décompose en trois grosses parties.
On va dire trois parties, ouais.
Voilà, on va essayer d'être assez...
Donc il y a le flic humain.
Alors oui, c'est ça.
Le flic robot.
Voilà.
Et le flic robot humain. Ou humain robot, comme vous voulez.
Très bien. Donc on va parler un peu de la partie 1 qui est le flic Murphy, Robocop voilà. Humain.
Voilà, il arrive dans un nouveau commissariat.
Ouais.
Il est accueilli par ses collègues.
Pas très bien accueilli.
Mm-hmm. Ouais, mais il garde le sourire. Il garde
bien
la
sûr,
banane.
Mais
c'est vrai qu'il a toujours la banane ça. Au début. Ouais. Et nous, quoi, bon, quand t'as déjà vu le film, tu te dis putain, tu rigoles pas trop parce que vu ce qu'il va t'attendre.
Mais du coup, ils introduisent le personnage sans trop aller trop dans l'approfondissement du truc. On sait juste qu'il a un gosse et une femme, puis ça s'arrête là, quoi.
On le sait parce que il raconte à sa nouvelle coéquipière, parce qu'il vient d'être muté à Détroit, et il raconte à sa future coéquipière qu'il aime bien lancer faire des gestes avec ses flingues, essayer de le rembobiner, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, le rengainer. Et voilà, et ça c'est un truc qui va nous servir plus tard. Mais...
Petit geste à la western. Quoi. Mm.
Bah, c'est à ça qu'on le reconnaît plus tard quand il est robot.
Ouais.
Dans cette première partie, on a introduit aussi les méchants. Il y a deux types de méchants. Il y a les bandits et les capitalistes.
Et les technocrates.
Les technocrates. Je pense qu'on pourrait utiliser technocrates.
Ouais, on peut utiliser le mot technocrate. On l'aime bien. Et du coup, on se rend compte que c'est tous une bande de gros connards. Alors, il y a une bande de gros connards sans cervelle. C'est les bandits qui n'hésitent pas à tirer sur tout le monde, à tout flinguer.
Il a buté plein. Ils disent qu'il y a 40 flics qui sont fait tuer là, les dernières semaines à Détroit.
C'est des tueurs de flics. Ouais. Et du coup, les technocrates, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est plus une critique de la société capitaliste. Voilà, vue par Verhoeven. Ces gens sont prêts à faire tous les profits, quitte à tuer des gens, enfin, à maintenir un niveau de vie pauvre dans Détroit, tant que eux, ça leur apporte des sous, en gros. Mmh. C'est ce qu'on comprend.
Et en concurrence, on voit que y a la police qui est en concurrence, puisque la police, tout le monde le dit. Normalement, la police ne fait pas grève, mais là, ils font grève. Ils disent non, mais il y en a marre.
Ils
veulent,
ils sont prêts à faire une grève.
Ouais, parce que dans ce film, la police est privée. C'est plus un service public et elle appartient à une société qui s'appelle l'OCP.
Ouais. Et ça, c'est pas bon. Ah, on est contre ça. Hein, ça, c'est.
Mélanger ça.
Ah, là, là, là.
La police, ça, c'est le service public.
C'était quoi comme.
Je sais pas, c'est quoi comme accent.
Je pense que c'est plutôt du sud. Je suis pas sûr.
Oui, c'était plutôt ça.
Et ils ont un nouvel outil pour essayer de. Pour renforcer les équipes de police. L'OCP a un nouvel outil, il s'appelle le ED-209.
Exactement.
Qui est une espèce de grosse machine bizarre, Dim.
Ils essayent de la revendre à la police.
Oui, c'est une sorte de. Pas de drone, faut avoir un robot un peu mal fait.
Ouais.
Avec deux grosses pattes et des mitrailleuses en guise de bras.
Ouais.
Et du coup, ils le testent. Ils disent à un de ses collègues, vas-y, pointe ce pistolet sur le robot, et puis tu vois, il va te demander de baisser ton arme. C'est ce qu'il fait, il baisse son arme, mais le robot, il a un bug, parce qu'il lui demande toujours de baisser son arme, et on se rend compte qu'il va lui tirer dessus.
Ça gêne pas grand monde. On dit, bon, c'est pas terrible, commercialement
pas
terrible, parlant.
Mais surtout que les mecs, c'est juste des PDG, des voilà, des mecs.
C'est juste des PDG. Ouais, ok.
Mais voilà, des technocrates, quoi. Ouais. Et ils voient quand même un de leurs potes, enfin, un de leurs collègues se faire dégommer, mais méchamment, quoi. Vraiment, il lui tire, je sais pas, une vingtaine de balles dans le bide, ça explose de partout, les tripes et tout. Et bah tu les revois le lendemain, ils sont à la buvette, ils discutent tranquille, ils sont pas du tout traumatisés d'avoir vu un mec se faire dégommer, quoi.
Et j'ai trouvé que non seulement il marchait pas très bien ce robot, mais en plus il était assez Il fait pas beaucoup d'économies, je veux dire, comme tu l'as dit, il utilise une vingtaine de balles, je crois même que c'est plus.
Mais c'est vrai qu'il
aurait,
en deux balles, il était mort, mais il fait bien son travail. Au cas où, on lui lance 30 balles dans le buffet.
Donc voilà pour la présentation des technocrates méchants. Sur la présentation des bandits, on nous les présente à travers une course-poursuite avec Murphy et sa collègue et les bandits. Ces bandits arrivent à se réfugier dans une usine désaffectée et Murphy et sa collègue décident d'infiltrer l'usine et tentent d'arrêter les bandits.
C'est ça, et ils sont que deux et c'est compliqué d'arrêter, je crois qu'ils sont six, c'est un peu compliqué. Et il y a une scène qui est très drôle avec... avec y a la nana qui se retrouve face à un black qui est en train de pisser.
Ouais.
Et
elle lui dit haut les mains,
retourne-toi, pas de geste brusque. Enfin, vous voyez le tableau. Et lui, il a toujours la quéquette à l'air.
Ça te fait rire.
Et il dit je peux quand même me refroguer. Et du coup, elle regarde une demi-seconde et boum, il en profite.
Il y a une tension dans les yeux, elle cligne les yeux et du coup, il a balance par-dessus le garde-corps.
Eh bah bravo, avec un rire proche de...
C'est très bizarre quand même.
Rire démoniaque.
Ouais.
Ça fait pas rire, je sais pas, ça fait pas rire de méchant, je trouve.
De psychopathe un peu atteint, quoi.
Ouais. Mmh.
Mais c'est bizarre parce qu'il pourrait la finir. Non, mais elle a tué.
Ouais,
parce qu'au final, il lui a juste filé une claque. Et elle est tombée en contrebas, mais vous n'avez pas tombé de 50 mètres non plus. Donc à l'époque, elle est juste un peu sonnée.
Ouais, voilà.
Pourquoi il la laisse comme ça, sachant qu'elle peut se réveiller, elle a une arme.
Et surtout que quand il revient, il fait croire à tous ses potes qu'il l'a violée.
Alors oui, en plus, pas du tout. Il a juste.
Ou alors, il était rapide.
Il dit en gros, je vais faire son affaire avec un petit rire, genre, vous comprenez ce que je veux dire.
Pour vous décrire un petit peu les méchants, c'est un peu les méchants qu'on retrouvait dans les jeux vidéo, les bandes d'arcade, style Street of Rage ou.
C'est du beat'em all grand.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'ailleurs, on n'a pas dit, mais à un moment donné, il y a une petite bagarre dans le commissariat au début du film, et la flic, elle tape un peu un malfrat qui est bourré dans le commissariat. Et voilà. Et il y a un bruitage, mais le bruitage, c'est double dragon, quoi. C'est tout le temps le même bruit quand tu donnes un coup de poing, c'est genre. C'est pas du tout le vrai bruitage que tu donnes un coup de poing.
Comme
regardez,
film de
je donne
fou,
un coup de poing, regardez le bruit que ça fait.
À peu près.
Tu viens de lui faire mal, là. Bon, et puis ensuite arrive la fameuse scène. La fameuse scène. La scène christique du film, vraiment.
Christique. Oh, c'est joli. Mot compte triple.
Mais. la scène est assez gore, assez marquante, assez traumatisante, surtout quand on l'a vu jeune, je pense. Mm. Mais même de nos jours.
J'en suis encore tout retourné.
Parce qu'ils prennent leur temps, en fait, à achever Murphy. Ils lui tirent dans le bras, ils lui arrachent le bras, ils lui tirent dans les.
Et ça les fait beaucoup rire, ça j'ai pas compris.
Ah oui, ils se mettent une grosse barre tous, ils sont six à se marrer.
Complètement drouillés. On voit les méchants à chaque fois, tout le film, ils sont en train de se prendre
dans les couilles.
Ils doivent être complètement allumés, et du coup, ils massacrent ce pauvre Murphy, qui se prend une balle dans la tête.
Ouais.
Et on enchaîne du coup sur sa mort. Enfin, on le pense mort.
Ouais.
On le pense.
D'ailleurs, on a un petit extrait de ce massacre.
Eh ben, on va écouter ce beau massacre.
Tu vois, c'est ça mon problème. Les flics, ils m'aiment pas. Alors, j'en ai autant à leur service. Mettez-vous la main sur ce connard. Je vous laisse.
Allons-y, les gars.
Allez, super flic, regarde-nous.
Et ils pensaient qu'ils allaient sauver les médecins.
Donc voilà, il est mort, hein, puisque à peu près mort. On arrive de la deuxième phase où il va devenir Robocop.
Et du coup, on suit très belle mise en scène. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé là, de ces 10 minutes qui suivent.
C'est ça.
En fait, il est encore à moitié entre la vie et la mort. Il s'est pris une balle dans la tête. Et des infirmiers essayent de le réveiller. Et on a une sorte de caméra qui se déplace autour de son corps, à moitié en vie, comme si...
Comme s'il flottait, quoi. Ouais, c'est comme ça. Un mort, quoi.
Et on entend tous ces bruits d'infirmiers qui parlent, qui disent « envoyez l'insuline, machin, pompe, machin ». Et c'est super bien fait, c'est bien rythmé, et puis la mise en scène est bonne trouvaille.
C'est ça. Et finalement, on se rend compte que les technocrates avaient un plan en tête, il fallait...
Ils attendaient un candidat,
donc en fait, c'est un flic qui était en train de crever. Petite parenthèse, quand on reçoit une balle à la tête, on ne meurt pas forcément, on a 50% de chances de survivre. Ça, j'ai vérifié.
Bon, par contre, quand tu prends une balle dans la tête et 20 balles de fusil à pompe comme lui dans le corps, là, je pense que tes chances sont un peu plus...
C'est vrai. Après, il avait un gilet pare-balles. Au moins, le cœur et tout ça était protégé.
Il a quand même... Il a perdu un peu de sang, quoi. Ouais. Il a plus de bras et tu perds un peu de sang.
Il a plus rien. Mais donc, du coup, il se retrouve robotisé. On voit que sa conscience devient robotique, ses yeux.
Là, on est en vue subjective.
Exactement,
et en gros,
ça, c'est très bien fait.
L'écran,
aussi,
ça fait un peu entrelacé. Enfin,
désentrelacé, je crois.
Désentrelacé. Et puis, on voit le quadrillage comme en mode robot, comme Terminator. Dans le film Terminator, quand on voit ce qu'il voit, c'est rouge. Ouais. Là, c'est pas exactement rouge.
Avec des écritures vertes.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on voit qu'il peut pas bouger encore. Donc il commence à avoir conscience de ce qui se passe autour de lui. Enfin, on imagine, mais bon, après c'est un robot, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense.
Ouais,
mais en tout cas, il peut plus bouger, quoi. Ouais. Il n'est pas encore activé vraiment.
Et du coup, on lui dit qu'il a 4 directives prioritaires. Ça va être du coup un nouvel élément fort de l'équipe de police. Il a 4 directives prioritaires, ça rappelle un peu les lois d'Asimov.
Ouais.
Les lois de la robotique. Là, c'est un peu différent. La première loi, c'est être au service des citoyens. La deuxième loi, c'est la même. C'est protéger les innocents. Ça ressemble quand même pas mal. Et la troisième, c'est faire respecter la loi. Et la quatrième, il y a une quatrième. Ça, c'est le...
Ouais, et c'est marqué top secret. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la quatrième directive.
Il aurait pu faire la bourde à ce moment-là. Il aurait pu dire, il y a une quatrième directive, mais je ne peux pas en parler.
C'est quoi?
Super, ouais.
Et du coup, arrive la phase, Robocop se met à buter du méchant.
Voilà.
Donc là, on le suit dans les rues de Détroit et il va buter.
J'aime bien ce passage. Il y a la musique qu'on kiffe là, de Robocop. Là.
Je trouve que c'est un peu redondant, il y a trop de scènes.
C'est un peu pour montrer. Donc il bute un mec qui essaie de faire un petit braquage de supérette. Enfin, il le bute, il l'arrête. Il arrête 2 mecs et essaie de violer une meuf. D'ailleurs, il vise bien parce que, en gros, le mec, il est derrière la meuf, il a un couteau.
Ouais.
Il dit, si tu fais quoi que ce soit, Robocop, je l'égorge, quoi.
Ouais.
Et en gros, il vise entre les jambes de la meuf. Et du coup, il touche les parties intimes du mec. Mais bon,
c'est bien
s'il vise un tout petit peu à côté, la meuf, elle prend cher quand même.
C'est clair.
Et du coup, on voit aussi un petit peu le futur de Détroit, puisqu'il se balade dans la ville. Donc, on en connaît un peu plus les détails. Et c'est un futur assez sombre, assez apocalyptique, où les rues sont des poubelles, des dépotoirs, qui rappellent un petit peu le même futur qu'on aura dans Total Recall.
Je crois que tu allais dire le même futur qu'on aura là dans quelques années en France.
Détroit, moi j'ai pas été, mais apparemment.
Et apparemment,
on va en parler.
On en parlera plus tard.
Il y a un truc aussi qui m'a fait rire, c'est le braquage à la mairie. Il y a un conseiller municipal qui prend en otage le maire pour être réélu. Ça n'a aucun sens.
Il dit, il a perdu son siège et il dit, je veux une réélection et quel que soit le résultat, je veux qu'on me rende mon siège.
Voilà. Et du coup, Robocop arrive, la police peut pas faire grand chose parce que c'est une prise d'otage. Le Robocop arrive, il le chope à travers le mur et le dégage par la vitre. Et là, du coup, on passe sur des... Parce que tout le film est entrecoupé de scènes de JT, peu BFM TV, et là on voit qu'il rebondit en sautant par la fenêtre, on voit l'acteur rebondir. Je trouvais ça assez rigolo, assez nanardesque.
Moi je l'ai pas vu, t'as l'œil, Seb.
Je pense que c'est un peu de mauvais sens.
Michel.
Dans tous les films, on va trouver un truc comme ça.
Ce qui m'a fait rigoler dans cette prise d'otage, c'est que le maire viré, il demande une voiture avec un limiteur de vitesse. Il y avait déjà ça à l'époque.
Et c'est surtout pour quoi faire, quoi.
Ouais, c'est clair.
Bah, pour pas
semer la police trop vite.
Pour pas dépasser la limitation, c'est important.
Je crois que c'est plus d'un limitateur de vitesse.
Ouais, mais bon, quand tu veux t'échapper de la police, ça ne sert pas à grand chose, le limitateur de vitesse.
C'est vrai.
Ouais. Enfin bon, il avait l'air un peu foufou.
Et quand on parlait là, du JT tout à l'heure, on voit aussi des pubs. Les pubs du futur.
Ouais.
Et il y a une pub qui parle de jeux de société. Je sais pas si vous vous souvenez.
Bataille navale.
Ah oui, mais sauf que. Duke Nukem.
Pas Duke Nukem. Mais c'est vrai que.
Je fais l'association dans ma tête.
Et en fait, d'ailleurs, il y a eu un article récemment où ils ont publié les jeux de la CIA, où on peut les refaire chez soi. La CIA a vraiment des jeux comme ça de conflits internationaux.
Ah ouais?
Ouais, vous pouvez les télécharger.
En fait, la CIA, pour savoir comment régler les conflits, ils jouent à un jeu vidéo, à un jeu comme ça, et puis.
Bah, pour aider, ouais, le jeu. Vous vous souvenez qu'en une heure de jeu, on connaît plus quelqu'un qu'en une année.
Alors, donc, donc c'était le petit passage, comme on disait, où il bute du méchant. Donc, jusque-là, là, il est vraiment en mode robot. Et on ne dirait pas qu'il a une conscience des restes de Murphy, le flic, le simple flic. Rapino, simple flic, c'est Murphy, simple flic.
Mais on voit quand même qu'il a des petites failles parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que tout le monde l'appelle Murphy. Il y a sa coéquipière qui se rend compte que ça pourrait être Murphy.
Ben, ça arrive plus tard. En fait, il se passe quelque chose dans la tête de Robocop parce qu'il est censé revenir à chaque fois dormir, se mettre en pause, en stand-by.
Ouais.
Et pendant de ces moments-là, en fait, il fait un rêve et il voit le flingue du méchant braqué sur lui et il revit cette scène, en fait, la scène de sa mort. Et c'est là où il commence à bugger complètement et puis il part un petit peu en live et il décide de partir. Et là, il croise son ancienne coéquipière qui lui dit « Mais Murphy, c'est toi, rappelle-toi !» Et puis ça le fait.
Et là, il récupère des informations dans la police et le nom, enfin son ancienne adresse. Et il retourne chez lui et ça lui fait quand même remonter quelques souvenirs.
D'ailleurs, c'était assez drôle ce truc d'archives. Il y a une salle d'archives où du coup, il connaît qui l'a tué et il regarde un peu des infos sur ce qui se Murphy parce qu'au début, il ne sait pas trop qui il est. Il regarde Murphy et puis là, il écrit « Décédé !»
En rouge sur l'écran.
Mais je veux dire, c'est un outil d'information de la police, tu vois, la police pourrait avoir des intérêts de voir autre chose que ça, mais non.
Je vais chercher des informations sur David Bowie à Google et ça va être marqué en gros. Décédé.
C'est exactement ça.
Et du coup, il va dans son appartement et j'ai trouvé que cette scène était quand même assez dramatique. J'ai bien aimé.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas trop tir à l'arme. C'est vrai qu'on.
Exactement.
Mais en même temps, moi, ça m'a un peu. Je me suis dit un peu Osef, quoi. C'est pas. J'avais pas trop d'empathie pour lui et sa famille.
Ça, c'est parce que. Oui, mais je veux dire, dans le scénario du film, c'est important que là, c'est bon, il commence à redevenir un peu humain.
Ouais.
Donc, c'est nécessaire cette scène-là. Parce que ce qui me dérange, je voudrais parler vite fait du remake de Robocop là, qui est sorti il y a 4-5 ans. Et en fait, ils ont juste repris en gros le coup des fausses pubs et le coup un peu la critique à la BFM TV. Ça, ils l'ont repris dans le remake.
Mmh.
Et par contre, le truc de la famille, ils l'ont repris, mais ils l'ont étiré sur genre un tiers du film. Sa femme, on n'arrête pas de la voir, son gosse. En fait, ils pensent trop à eux tout le long du film. Il y a plein de flashbacks et tout. Et ça, c'est hyper relou. Quoi. Là, c'est bien, ça dure 5 minutes la scène et ça suffit dans Robocop. Là.
Ok.
Et donc, il faut qu'on arrive à ce moment où on va arriver à la phase 3. Mmh. Donc là, on a commencé à en parler. Robocop va reprendre des trucs humains, quoi.
C'est ça. Et du coup, il décide de revoir son pote qui l'a tué, son ancien pote, le bandit numéro 1.
C'est pas vraiment son pote.
Vraiment son pote.
Clarence,
il arrive dans un entrepôt de drogue, parce que forcément, Clarence, il se trouve dans un entrepôt de drogue. Et je crois qu'on a un extrait de.
Est-ce qu'il y a un deal? Donc, Clarence, il est en train de faire un deal de drogue avec un mec un peu hispanique. Et là, il y a un dialogue très savoureux entre ces deux personnages. Seb, je crois que t'as l'extrait.
C'est curieux. Très curieux. Je me suis peut-être pas très bien fait comprendre. Je ne cherche pas la bagarre avec toi. C'est vrai, j'ai les contacts. J'ai le réseau de distribution. Et j'ai assez de muscles pour t'enfoncer ton tapis roulant jusqu'au fond de ton sale trou du cul de macaque. Et t'en chira de la naisse pendant un an.
Franck, crève-moi cette sale gueule de là.
Oh, tout cet acier.
Allons, Salvatore. Il y a un match ce soir. Contre les Tigres.
Je ne veux pas rater ça.
On rigole, quoi.
Jacob.
Donc Robocop arrive. Et voilà, il fait un massacre auprès des méchants. Mais en fait, là, c'est plus de la vengeance qu'autre chose. Hein. Bon, après, je comprends que ça soit des malfrats, des bandits.
Bah, mais là, c'est vrai qu'il n'y a plus de directive, il tire sur tout ce qu'il veut.
Ouais, c'est clair.
J'adore cette scène quand même, elle est bien foutue. Ouais. Il arrive avec la musique, il dégomme tout le monde, en mode tout puissant, quoi. Et c'est bien parce que ça contrebalance avec la, un peu la, là, on se dit vraiment, limite, on se dit, bah, il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'il est trop fort, en fait.
Il est invincible.
Et juste après, voilà. Donc il bute les méchants, et en fait.
Il découvre qu'il y a un technocrate qui est derrière, qui est associé avec tout ça, avec, avec les bandits. Il va le voir. Là, il y a le fameux robot qu'on a vu au début.
Exactement. Le gros robot sur pattes.
Voilà, le gros robot. Et lui, il a l'air d'être un peu plus fort. Il met mal en point un Robocop.
Il lui balance des missiles dans la gueule.
Non, mais là, il faut expliquer la directive 4. Donc,
ouais, c'est
Robocop
ça, exactement.
Essaye d'arrêter ce mec-là. Quoi, ouais. Et là, en fait, sa directive 4, c'est qu'en fait, il ne pouvait pas arrêter des mecs de l'OCP.
Et oui, et c'est pour ça que le privé, c'est mal. Le message, je pense.
Bah ouais, parce qu'ils ont mis des garde-fous et puis du coup, bah, ils sont immunisés contre.
Exactement.
Robocop, il peut rien faire. En plus, il est à moitié paralysé. Enfin, il a du mal à se déplacer et tout. Il est vraiment, il a comme un bug. Et là, bah, le gros robot arrive et il le déglingue pas mal quand même.
Voilà, ouais.
Mais il arrive quand même à s'extirper de ça.
Le robot, il est nul. Il n'arrive pas à descendre les escaliers.
Ils ont construit un truc à 10 millions d'euros, le robot, et ils n'ont pas fait des jambes pour.
Du coup, Robocop se retrouve sur le parking souterrain de ce bâtiment et il se retrouve finalement face à une armée de policiers qui ont
été appelés par le technocrate de l'OCP. Ouais.
Voilà, cette scène, moi, je l'ai trouvée quand même assez belle parce que.
C'est triste.
Là, pour le coup, on voit que Robocop est plus humain que le robot parce qu'il tire sur personne, il met juste sa main comme ça en disant non, essayez d'arrêter de me tirer dessus. On le voit, les flics le suivent en lui tirant dessus tout le temps.
Après, est-ce qu'il est vraiment humain ou ça fait partie de ses directives? Finalement, ils ont rien fait de mal, ce sont des policiers, il peut pas leur tirer dessus.
On aurait pu se poser la question, mais le fait qu'il mette sa main comme ça, je trouve que
il se protège aussi.
C'est plus dans ce passage là je trouve que c'est plus humain que robot. Et Murphy arrive,
voilà.
L'embarque dans sa voiture.
Murphy, la coéquipière,
oui, Lewis.
C'est une femme forte, on n'a pas trop parlé, mais voilà.
On n'a pas parlé, mais comme dans beaucoup de films, on a des femmes.
Donc là, elle l'embarque effectivement, et puis ils partent se réfugier. Mais je sais pas pourquoi elle choisit quand même d'aller dans la même usine où il s'est fait buter, c'est quand même un peu
c'est
bizarre.
C'est pour boucler la boucle.
Et c'est la même usine au début, quand ils se font dégommer tous les deux, et ils vont se planquer là. Pourquoi ici, je sais
pourquoi pas. Pourquoi pas. Et peut-être qu'on se dit, mais ils y penseront jamais.
Ils ont oublié.
C'était il y a 40 minutes de film quand même. Et donc là, on retrouve un Robocop qui devient humain.
Mais parce qu'il retire son masque.
Voilà, c'est symbolisé par le fait qu'il reste Robocop, il enlève son masque et on voit que c'est bien Murphy. Et c'est très bien fait d'ailleurs ce truc-là. Ça fait vraiment un visage collé sur
le masque. Ouais, je sais pas, les effets spéciaux, ils sont quand même bien foutus.
Ouais.
Parce qu'en fait, la tête ressort. C'est vrai, on dirait vraiment qu'ils ont collé un visage sur un truc chromatique.
Très bien fait. Il y a d'autres effets qui vont pas du tout, je trouve. Le gros robot, je trouve que ça n'est pas très bien fait. L'animation est pas belle, mais alors ça, ça a pas du
tout ce qui est maquillage, c'est plutôt bien foutu. Parce qu'il y a, on va en parler après. Et donc là, ils sont réfugiés là, et en fait, il a une puce GPS Robocop, qui est, lui, il est pas au courant, mais ils lui ont implanté un truc pour le repérer tout le temps.
Voilà.
Et du coup, le patron de l'OCP, il donne le tuyau aux gangsters, et les gangsters vont aller à l'usine pour le finir. Quoi.
Ouais. D'ailleurs, il y a un petit truc qui m'a fait marrer, le fait que le technocrate s'appelle Dick Richard, et le bandit arrive, il lui dit « Salut Dick, ça gicle
!» Je précisais Dick, ça veut dire quoi ça,
ben ça veut dire « bite oh. !» Ce sera bité au montage. Ok.
Oh putain.
Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez drôle. C'est la petite
L'humour pipi caca.
Ça marche toujours.
Et sauf que c'est peine perdue parce qu'en fait les méchants ils arrivent.
Ouais.
Bon, ils foutent quand même un peu la misère à Robocop puisqu'ils sont armés de gros flingues.
Ah oui, ils ont des sacrés fusils.
Ouais, mais ça c'est toute cette phase, ça va être la bataille finale quoi en fait.
Voilà, c'est ça. Mais ils perdent quand même. Le gros méchant il se fait à moitié égorgé. Il y a une gerbe de sang énorme là.
Et puis il y a le rouquin qui essaie d'écraser Robocop, mais il se pousse d'un moment et il atterrit dans une cuve d'eau toxique. On sait pas trop ce que c'est. Et du coup, il a la peau qui
fond. C'est vraiment.
Il
se fait exploser sur une voiture, mais on voit vraiment son corps exploser. Quoi.
Alors que dans d'autres films, il aurait pu choper des super pouvoirs, genre je crois que dans Daredevil c'est ça, Alex, les incroyables pouvoirs d'Alex c'était ça.
Bah lui il a eu le pouvoir d'exploser.
C'est pas très beau. Bon. Pas de bol. Voilà.
Et du coup, Robocop, il en reste pas là, il décide de finir le boulot, donc il retourne à l'OCP pour arrêter le technocrate méchant.
Et là il se dit, je peux pas te buter, mais je vais le dire. Je vais le dire à ton. Parce que le méchant de technocrate, ce n'est que le numéro 2. Il faut en parler au numéro 1 qui est un peu plus intègre.
Voilà. Et du coup, il diffuse la vidéo où on entend le technocrate numéro 2 dire...
Technocrate.
Le technocrate numéro 2 dire « Oui, je suis le méchant, en gros.
Ouais. »
Et du coup, le technocrate numéro 1 dit « Eh ben, t'es viré !» Et puis Robocop, il dit « Merci !» Bam.
Et du coup, ça libère sa directive numéro 4 puisque c'est plus un dirigeant de l'OCP, voilà, parce que, là, il a été viré. Bon, c'est pareil, il a quand même pas fait... Il a pas fait une lettre de licenciement. Licenciement ouais. Cause réelle et sérieuse, ouais. Avec le délai d'attente nécessaire.
Bon, moi, je trouve ça un peu limite. Alors,
ouais, je crois qu'aux États-Unis, tu peux être viré comme ça du jour au lendemain. Et ça, bon, ça, on n'a pas ce problème-là en France.
Surtout dans un détroit d'un futur apocalyptique.
Ouais, ça. Donc voilà, on a fini ce film. On a fini ce film. Et bon, bah, est-ce qu'on recommande ce film?
Oui, sûr, plus que chaudement. C'est un film, plus il vieillit, plus il est bon à voir.
C'est comme un bon vin.
Je suis pas aussi dithyrambique, mais voilà, si vraiment vous avez rien d'autre à foutre de votre vie,
foi, n'écoutez pas.
Hormis quelques effets spéciaux qui ont vraiment.
Un peu d'athée, mais c'est normal.
Juste sur le robot, parce que sinon le reste c'est quand même bien.
Bah, quand il tombe, le méchant à la fin.
Ah oui, à la fin il tombe dans le vide, le méchant.
Je comprends pas ce qui s'est passé là.
Ouais. Bon bah voilà, on va parler maintenant un peu des anecdotes de ce film, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Et bah on t'écoute, Seb.
Enfin, comme je te disais, la crevette c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouilli, grillé, rôti, sauté. T'as la crevette kebab, la crevette créole. Oh, c'est à peu près tout.
Alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. On s'en fout pas. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à m'en parler.
On n'hésitera pas.
Vous n'hésiterez pas. Alors, est-ce que vous saviez que ce film, il a été proposé à tous les réalisateurs, les plus gros réalisateurs de l'époque, et personne n'en voulait de ce machin. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, un robot, c'était les séries B, séries Z, quoi, c'était nul.
Ouais, je sais.
D'accord. Et Paul Verhoeven, il n'en voulait pas non plus, le réalisateur du film. Et c'est sa femme qui a vu le script un peu sur son bureau et s'est dit, ah ben ça peut être pas mal, il y a quand même des trucs. Bon, ben il a fini par sceller. Voilà.
Mais clairement, ce qui fait que le film est un bon film, c'est parce qu'il avait une vision propre à lui, enfin un peu violente de ce scénario-là. Clairement, le 2 et le 3, c'est des navets. Le remake, c'est aussi un navet parce qu'ils n'ont pas cette personnalité qu'a ce réalisateur-là qui fait aussi des bons films par ailleurs.
Mais du coup, je ne sais pas si ton anecdote s'arrête là, puisque je sais qu'il y avait une autre raison pour laquelle il a accepté Verhoeven.
Vas-y, dis-nous.
C'est qu'il voyait justement sur Robocop un aspect christique. Voilà. L'homme qui
j'ai bien senti que t'allais dire ça.
Et lui, il aime ça parce qu'il aime, il a une vision un peu à lui, en fait, de la croyance et de Jésus. Ouais. Et du coup, il a voulu amener quelques éléments du Christ dans son personnage de Robocop.
Ok. Deuxième petite anecdote, donc ça on s'en fout pas, on va dire. Hein.
Non, on s'en fout pas.
Okay. C'est pour ça qu'à un moment donné, il transforme l'eau en vin, Robocop.
Ah oui,
et qui est complètement bourré.
C'est vrai. Okay. D'ailleurs, mais pourquoi il... Ah oui, oui, la Renaissance, puisqu'on voit tout le long du film qu'il mange des peaux de bébé. C'est comme ça que les parties organiques de Robocop vivent. Est-ce que quand il renaît en tant que robot, il mange ça comme s'il renaissait vraiment? Est-ce que vous pensez qu'il y a une image un peu...
Je sais pas.
On va vérifier. Donc, deuxième petite anecdote. Alors, ce film, il a été trop long à faire, il était hors budget, etc.
Ah ouais?
Et du coup, Paul Verhoeven, il s'est dit, bon, je ne vais pas tourner la scène mythique où le personnage de Murphy se fait exploser par des flingues, etc. Il ne l'a pas tourné, il l'a montré au producteur, etc. Il l'a montré, il a dit, bah voilà, on n'a pas pu le faire. Donc les gars ont fait, bah ouais, mais enfin, il manque ça. Donc c'est, en fait, il a fini son film avec le budget qu'il avait. Il a dit, mais il manque ce truc-là. Il a eu une
doit être
rallonge.
Complètement barjot, ce mec, il doit être incroyable.
C'est pas con.
En même temps, ils sont obligés de la tourner cette
scène. Non, mais t'imagines le mec, comment il a des couilles, quoi.
C'est clair. Ah, il n'y a pas de budget, c'est ce qu'on va voir.
Bah, regarde, la moitié du film. Bah, voilà.
Ah bah, on n'a pas tourné les scènes où il y a Robocop. Voilà, on n'a fait plus, voilà. On va parler un peu de l'armure de Robocop.
On s'en fout pas.
Ok, merci. Alors, c'est une vraie armure qui est apparemment très très lourde et très très chaude pour l'acteur. L'acteur, apparemment, pour chaque jour de tournage où il la portait, il perdait 1 kg par jour. C'est assez de ouf. Et ils ont dû lui installer de l'air conditionné dans son costume. Donc, c'est assez. Ils ont travaillé le machin. Voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai une autre petite anecdote. Est-ce que vous savez combien il a coûté ce
costume?
Ouais.
Ah non.
Il a coûté, alors il y a des estimations, c'est entre 500 000 dollars et 1 million de dollars.
Sérieux?
Ouais,
le costume.
Ouais, le costume.
Il a l'air tout en plastique à moitié. Enfin, il est pas trop mal fait, mais bon.
Ça paraît fou, hein. D'ailleurs, il était même trop grand dans certaines scènes où il est dans la voiture. Et en fait, l'acteur, il a le haut Robocop et le bas, il en slip.
Ça a été trop bien qu'ils oublient de couper cette scène. On le voit en caleçon.
Alors, une autre petite anecdote que moi, j'aime bien. Alors, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Oh, ça sent la
ouais, c'est pas bon, ça.
Il y a... il y a un voleur qui se faisait pourchasser par la police et qui est rentré dans un cinéma pour se cacher. Il est rentré et je sais pas où est-ce qu'il s'est caché. Il a dû se placer devant pour voir le film. Et là, c'était Robocop qui passait. Et ça l'avait tellement plu qu'il a pas fait gaffe que, en fait, les flics avaient fait sortir tous les enjeux de la salle. Les lumières se sont rallumées. Il était tout seul comme un con entouré de flics. Voilà, ça, c'est... On peut dire que... Lui, en tout cas, il l'a bien aimé, hein, comme vous.
Ça veut dire qu'il l'a quand même vu jusqu'à la fin. Les flics sont gentils, ils ont attendu la fin.
On attend quand même qu'ils voient jusqu'au bout pour l'arrêter.
Peut-être que les flics ont bien aimé aussi. Hein.
Ils se sont posés à côté de lui.
Et dernière petite anecdote. Alors, 25 ans après le film, il y a eu une rumeur sur Internet qui circulait comme quoi, à Détroit, il y avait une statue énorme de Robocop. En fait, c'était complètement un canular. Mais il y a eu une campagne Kickstarter qui s'est dit, là, où, franchement... Ok. Ils se sont dit, on va faire cette putain de statue comme à Philadelphie.
Avec la statue de Rocky.
Exactement.
Et du coup, il va y en avoir une?
Et oui, apparemment.
Donc les gens se mobilisent pour faire une statue Robocop, mais par contre, le reste de la ville, comme tu vas nous l'expliquer.
C'est vrai qu'on va parler maintenant de Détroit.
Un peu de culture.
Un peu de culture. Dans la partition, ce qui a été récupéré par Dim, c'est parti.
Pas vraiment de la science.
Générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
2,21 gigawatts? Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?
Alors, je vais vous parler un peu de culture de la ville.
Vas-y.
De Détroit.
Fais-toi plaisir.
Alors, donc le film prend place dans cette ville-là, mais c'est un futur. On ne sait pas exactement l'année de...
Ah, je crois que j'ai l'info, mais vas-y, continue, je vais te le dire.
Alors voilà, donc c'est dans le futur. Et donc, ils prédisent quand même... Enfin, le film présage des jours sombres pour cette ville-là. Et effectivement, ils ont bien fait de choisir cette ville-là, entre guillemets, parce que c'est... À l'heure d'aujourd'hui, Détroit, c'est vraiment la catastrophe. Alors, apparemment, ça fait vraiment 60 ans que cette ville est en déclin. Donc déjà, quand ils ont tourné le film, je pense que ça commençait... Ils commençaient à avoir des soucis d'insécurité, etc., dans cette ville-là. En fait, le gros problème, entre guillemets, de cette ville, c'est que ça a été construit sur l'essor des sociétés automobiles. Et du coup, un peu avec le déclin de ce secteur-là d'activité, bah du coup, la ville s'est appauvrie. Il y avait trois grosses usines de fabrication de voitures à Détroit. Et du coup, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, ça a créé de l'insécurité. Et donc aujourd'hui, donc j'ai des petites infos, des petits chiffres à vous passer sur Détroit. Alors déjà, il faut savoir que la ville s'est déclarée officiellement en faillite. Ouais. Donc le gouverneur de l'État a dit « Je prends cette décision difficile afin que les habitants de Détroit aient accès aux services publics les plus élémentaires et pour que Détroit reparte sur de solides bases financières qui lui permettront de croître à l'avenir. »
Waouh. Ça, c'est de tête hein, que tu nous fais.
Oui, bien sûr, ça, c'est totalement de tête. Ouais, ouais. Donc les trois grosses entreprises automobiles, c'était Ford, Chrysler et General Motors. Donc ça représentait énormément d'emplois. Et donc il faut savoir, la dette de Détroit, ça représente quand même 18 milliards de dollars. Donc c'est une petite somme.
C'est pas mal.
Voilà. Donc ils ont été obligés de se déclarer en faillite. Et ça fait partie des grandes villes américaines. Donc avec la crise, en fait, le nombre d'habitants diminue fortement. Mmh. Et là, du coup, donc, dans les années 50, où il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins d'habitants aux États-Unis, il y avait 1,8 million d'habitants à Détroit. Et aujourd'hui, il y a à peu près 706 000 habitants à Détroit.
C'est-à-dire ça fait quand même une sacrée baisse. Il y a une dette de 18 milliards sur 200 000 habitants, quoi.
700 000 habitants.
700 000, pardon.
Mais c'est pas beaucoup. Enfin, c'est une grosse ville américaine, 700 000 habitants, c'est deux fois l'agglomération rennaise. Enfin, c'est
rien, c'est pas une grosse ville, en fait.
Bah non, bah avant c'était une grosse énorme. Ville. Mais
on se comprend.
Et du coup, donc il y a énormément aussi de bâtiments qui sont où ils sont abandonnés. Du coup, il y a des trafics de drogue qui se passent là-dedans. Enfin, il y a des quartiers entiers où c'est des, en plus c'est des beaux bâtiments, c'était des belles maisons à l'époque qui sont totalement en ruine. C'est un peu le paradis pour les photographes parce qu'ils peuvent faire des belles photos, enfin des photos un peu étranges avec des trucs un peu des paysages apocalyptiques. Et voilà, ils disent qu'il y a à peu près 78 000 bâtiments à l'abandon à Détroit, donc c'est juste énorme. Il y a à peu près un habitant sur deux à Détroit qui est sans emploi.
Ah ouais.
Donc ça fait quand même un sacré taux de chômage.
Ça fait 50%.
Ah. Il est fort en calcul.
C'est vrai qu'il est fort.
Il y a eu par exemple 300, en termes d'insécurité, il y a eu 379 meurtres en 2012. Et c'est la deuxième ville de plus de 200 000 habitants aux États-Unis où il y a le plus de meurtres.
C'est quoi la première ?
La première, c'est aussi une ville qui a beaucoup souffert il y a quelques années, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc d'accord. Forcément avec l'ouragan.
Nouvelle-Orléans, je croyais que c'était une région, c'est une ville.
Ah, c'est une ville.
Ah d'accord.
Et du coup avec l'ouragan Katrina, c'est pareil, il y a eu beaucoup de maisons où les gens sont partis et tout ça. Et c'est, je crois que c'est en Louisiane. Et du coup pareil, il y a énormément d'insécurité dans cette ville-là. Et une dernière petite chose, en gros, donc en moyenne aux États-Unis par exemple, la police met 11 minutes à intervenir quand on les appelle pour une tentative de mort ou que sais-je. Et à Détroit, ils mettent 58 minutes. Donc clairement, ça fait beaucoup en moyenne, donc ça peut être beaucoup plus.
Mais ils ont pas, c'est parce qu'ils mettent les limitateurs de vitesse.
C'est ça. Donc voilà, c'était mes petites infos sur la ville de Détroit. Si vous passez aux États-Unis, peut-être aller visiter, ça peut être sympa. Peut-être pas la nuit quand même.
C'est bucolique.
Oui, c'est
ça. C'est un peu comme un safari quelque part. C'est bon. On sort pas de la bagnole.
Il faut pas sortir de la bagnole.
Ah non, c'est trop dangereux.
Oh là là, les gars.
Bon, voilà, et bah, c'était tout pour ma rubrique. Maintenant, on va passer aux recommandations de Joe.
Et oui. C'est parti.
Attendez une seconde. Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares. Il me semble avoir ici de quoi faire votre bonheur.
Alors, Dimitri m'a prêté sa mallette.
Ah, tu le fais pas aussi bien.
Ouais, ça se voit que t'as pas l'habitude.
Ouais, il m'a pas expliqué comment on l'ouvrait. Et du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de la filmographie de Verhoeven, parce que c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. On va commencer par ordre chronologique. Quand il est arrivé aux États-Unis, son premier film qu'il a réalisé, c'est La chair et le sang, en 85, qui est réputé comme un de ses meilleurs films de KPDP. Et on retrouve dans ce film tout ce qui fait la renommée de Verhoeven, c'est-à-dire du sang, du sexe et du sexe.
Et tu as bien aimé Robocop, il n'y a pas trop de sexe.
Il
n'y
a pas trop de sexe. Ouais. Je pense que c'est un des films où il filme le moins de
boule.
Il y a juste à un moment un passage dans un vestiaire mixte qu'on retrouve aussi dans Starship Troopers, où les femmes et les hommes sont tous à poil dans le même vestiaire. Il n'y a pas de complexe avec Verhoeven, je pense. Le film, donc, La chair et le sang, ça se passe dans les années 1500. Et ça suit une bande de mercenaires qui se vengent de leur ancien seigneur.
Mmh. Ok.
Scénario classique. Je l'ai revu, j'étais un poil déçu. Dans mon souvenir, c'était quand même un peu meilleur. Je pense que ça a bien vieilli, en fait.
Bah, c'est bien de nous le recommander, alors.
je vous le recommande si vous êtes fan
de KPDP. J'avais une masque de Zorro quand j'étais petit.
Ah oui.
Je pense que c'est quand même un peu mieux. Ensuite, il a réalisé Robocop en 87. On vient de vous en parler. C'est juste un petit chef-d'œuvre, un petit bijou. Il a enchaîné avec un autre gros succès qui est Total Recall.
Ça, c'est très
bien. J'aimerais bien le voir, un de ces quatre. Hein.
Eh bien, je pense qu'on le verra, un de ces quatre.
Ah, quel teasing.
Eh oui. Alors, Total Recall, il reprend un petit peu un univers post-apocalyptique. Bon, on est plus loin, je pense, dans le
futur. Ah oui, parce qu'ils vont sur Mars et tout.
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu sais, Seb, quand est-ce que ça se passe, Robocop? T'as dit que tu savais peut-être. Hein.
La date?
Ouais.
J'ai cherché.
Mais t'as pas trouvé.
Okay. Mais je sais que je l'ai lu. Je crois que c'était 2035, un truc comme ça.
2035.
Je crois que c'est un truc comme ça.
Parce que du coup, Total Recall, ça se passe en 2048. Et,
comme le jeu.
2048.
Okay. Ouais. Un jeu comme ça.
Et ça suit l'histoire d'un homme qui est incarné par Schwarzenegger, qui cherche à refaire sa vie sur Mars. Et en fait, s'il est autant attiré par Mars, c'est parce qu'il se rend compte qu'il a eu une vie là-dessus et que cette vie a été effacée de sa mémoire Parce que finalement, c'était un agent double, etc.
Ouais, d'accord, Jason Bourne, quoi.
Alors, on pourrait dire ça, sauf que c'est Verhoeven qui filme, il y a du sang, il y a du sexe, et il y a du sexe, il y a même des triple boobs.
Et ça, ça lui a beaucoup plu.
Alors, voilà.
Ça, c'est marquant, quand même.
Donc voilà, pour notre... notre audience féminine, ça va être...
Elles vont aimer, là.
Elles vont aimer.
Alors... Ensuite, Verhoeven, toujours aux États-Unis, il va réaliser Basic Instinct, toujours avec une femme fatale, ici incarnée par Sharon Stone.
Le fameux jeu de jambes.
Il y a toujours, il y a quand même toujours quelque chose de marquant, toujours une petite scène marquante chez Verhoeven. Starship Troopers, c'est Triple Boobs.
Non, c'est Total Recall.
Pardon. Et du coup, ça suit l'histoire d'une femme fatale qui tue ses amants et en gros,
la veuve noire, quoi.
Mais on ne sait pas vraiment, en fait, si c'est elle.
Si.
On voit un pic à glace, ça va. Là.
Et puis on la voit le dégommer aussi. Elle
Vous
est
êtes sûr
lui.
De ça?
Ouais.
Ah, faudrait qu'on se le remette du.
Ah ouais, non, je suis sûr.
Ouais. Et du coup.
Ma main a coupé.
Ta main a coupé.
Ok.
Ensuite, il va réaliser Starship Trooper. On retrouve dans Starship Trooper quelques éléments qu'on retrouve dans Robocop. Que j'ai préféré dans Starship Troopers, ce sont les pubs et les faux JT. Je trouve que c'est un peu plus loufoque, un peu plus contemporain, on va dire. mais dedans, on retrouve aussi du sang et un peu de sexe. Même si on avait plus dans Basic Instinct, à mon avis.
Eh ben oui, c'était interdit au moins de 16 ans, je crois.
C'est vrai. Ah
ouais. Tous ces films étaient interdits au moins de 16 ans, non?
Ah ouais?
Ah ouais, il me semble.
Okay,
peut-être.
En tout cas, Starship Trooper est quand même bien violent. Il y a des passages ultra gore. Et ensuite, il va réaliser en 2000 Hollow Man, qui sera son dernier film aux États-Unis. Moi, c'est vraiment pas mon préféré. Et je pense que lui non plus, parce qu'après, il va se barrer. Il retourne en Europe pour réaliser des films européens. Et là, je connais moins cette période.
Mais Hollow Man, il y a quand même un peu la patte Verhoeven, le côté sadique.
Ouais, parce qu'il y a quoi? Il y a du sang, du sexe et des sexes.
Ce qu'à un moment donné,
Hollow Man, c'est avec Kevin Bacon, hein, c'est ça.
Ouais. Ouais, okay. Il viole une nana.
Ouais, mais dans la version au cinéma, on voit pas vraiment. Donc, il commence à lui toucher les seins, on voit le sein qui bouge tout seul. Et il paraît qu'il y a une scène qu'il a vraiment filmée où elle se fait vraiment violer, on voit qu'elle se fait violer quoi, et qu'ils l'ont retirée. C'était un peu sinon ça aurait été genre interdit moins de 16, et plutôt pour que ça passe, ils l'ont retiré un truc.
Bah, moi j'ai un bon vu au cinéma, mais je me souviens de cette scène, donc peut-être que j'avais vu une version.
Moi j'ai un bon souvenir de ce truc parce qu'on commence avec un personnage qui est très gentil,
et puis qui pète un câble,
qui pète un câble parce qu'il peut pas redevenir visible.
Bon. Non, mais il est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré par rapport aux autres, quoi. Et du coup, il rentre en Europe pour réaliser quelques films européens. Je connais pas, j'avais jamais vu ces films-là. Pour le coup, j'ai vu son premier film qu'il a réalisé en Europe, enfin à son retour d'Europe.
Ça 20 fois, quoi.
Europe, The Final Countdown. Et du coup, son premier film en Europe, c'est Black Book.
J'ai eu
du mal un petit peu au début à accrocher ce film. Et en fait, le film prend vraiment tout son sens. Enfin, le film est de plus en plus intéressant, plus l'histoire avance, je trouve. Et c'est là aussi une histoire avec une héroïne forte. C'est l'histoire du coup d'une juive pendant la Seconde Guerre mondiale qui se planque. Finalement, sa planque est détruite et elle va se ranger du côté des résistants et jouer un jeu d'espion avec un des chefs de la Gestapo. Donc c'est quand même une femme qui a des balls parce qu'elle est juive et qui a des balls pour le coup. Et elle est magnifique d'ailleurs, cette femme. C'est la femme qui joue la sorcière rousse dans Game of Thrones. Et on la voit très souvent en nu. Et alors c'est vrai que c'est pas très gentil pour les dames qui veulent regarder du Verhoeven, parce que c'est vrai qu'on voit plus souvent des belles femmes nues que des beaux hommes nus. Et dans ce film-là, c'est vrai qu'on la voit très souvent à poil, et on voit pas beaucoup de beaux Hollandais. Et c'est bien dommage. Malheureusement. Et voilà, ce film, ça a vraiment été une bonne claque. Je m'y attendais pas du tout, d'autant que au début du film, comme je vous l'ai dit, j'accrochais pas trop. Et au final, plus le truc se met en place, et plus ça devient intéressant à suivre. Donc je vous le recommande.
Bonne surprise.
Très
bah écoutez, merci pour ces belles recommandations.
Ouais, merci beaucoup.
Et bah,
c'est déjà. Oui, bah, pardon.
Je disais pas de soucis.
Fais gaffe à ce que tu dis.
Je vois, il y a des mots à pas dire.
Eh bien, c'est déjà la fin de ce podcast. Pour une fois, il fait moins d'une heure. C'est dingue.
On est clous.
Et donc, voilà, où est-ce qu'on peut nous écouter? Où est-ce qu'on peut nous contacter? Nous contacter, pardon.
Écouter un peu partout.
Oui, écoute, sur iTunes et compagnie.
Voilà. Spotify.
Spotify ne nous répond pas. Ils veulent pas nous répondre. Je ne sais pas pourquoi.
Ils leur fait peur.
Ils nous censurent.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'on dénonce trop de choses.
Sûrement. Sûrement, on est, voilà, on est, politiquement incorrect. Oh, j'ai du mal à le dire. Et donc, on peut nous contacter sur Twitter,
sur Facebook. Partout.
Sur lendemainsdeculte@caramel.fr.
Voilà, très bien.
Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir?
Eh bien, c'est à toi de choisir, Seb.
Eh bien, on va choisir Babar.
Non, j'adore ce film.
Oui.
Il y a eu un film Babar déjà?
Ok, déjà.
Je l'ai vu au ciné, hein. Sans déconner, hein.
Ah oui.
Il y a vraiment un film Babar.
Ah oui, il y a vraiment un film Babar.
Eh bien, on ne verra pas Babar, on va voir L'Armée des Douze Singes.
Mais pourquoi tu me fais ça, ça?
J'aurais préféré Babar.
Bah oui.
Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de L'Armée des Douze Singes.
Bisous, bisous.
Salut. Salut.